Le soleil est déjà haut. Vous plissez les yeux pour traverser la cour, passer à la chaux et aller dans le petit réduit qui vous sert de douche. L'eau n'est pas revenue, mais la vieille Momo a rempli le bidon. Vous plongez votre boîte de conserve dedans et vous vous aspergez. Vous êtes devenu plutôt efficace à ce jeu au fil des semaines. Vous savonnez, visage, aisselle, pubis. Deux autres conserves pour se rincer et le tour est joué. En sortant, vous croisez des dames d'un certain âge, des commères en grande tenue, invitées pour une sorte de rituel. Elles discutent, elles crient, elles chantent dans les effluves d'encens. Il y a une dramaturgie, vous devinez des rôles. Elles traficotent avec les esprits, sans doute les arts, descendants des 30 premiers enfants d'Ève, si beaux qu'elle voulut les cacher à la colère de Dieu. Votre propriétaire règne sur ce culte, comme elle règne sur la cour, sur Momo, sur ses fils et sur vous-même, à distance, sans quitter son salon ni sa pipe à eau en coloquinte. Aujourd'hui, mieux vaut prendre la tangente. Vous remontez les ruelles tortueuses, entre les murs blanchis et les murs pastels, mauves, bleus, verts, roses. Les enfants vous interpellent gentiment. À cette heure, le dédale est enchanteur, d'autant plus que là aussi vous avez progressé. Vous ne vous y perdez plus, vous avez assez usé vos pas dans ces pièges. Sur la place du marché, la foule est nombreuse, en ligne avec ses bidons jaunes, attendant son tour au camion-citerne. Des jeunes femmes, qui attendent sans doute là depuis des heures, ont décidé que ça passerait plus vite en chanson. Il est grand temps que la pluie revienne. Les bouchers débitent du bœuf ou de la chèvre sur leur grand billot, lançant parfois un bas morceau en l'air pour qu'un rapace l'attrape au vol. Arrivé en haut de la vieille ville, vous vous installez en son cœur, le Alibal. Si on cherche quelqu'un, c'est là qu'on pourra le trouver. Sur cette terrasse, où l'on parle en quatre langues, Adari, Oromo, Somali, Amharique. 5, avec celle des deux touristes blondes sous le parasol. 6, avec la vôtre. 7, avec les silences. 8, avec les rires. Les vieux font claquer les dominos. Un fonctionnaire au costume trop large se fait cirer les chaussures à travers la balustrade, l'air important. Les belles citadines passent dans des voiles saturées de couleurs, une fleur d'or sur l'aile du nez. Deux fillettes en haillons cherchent à vendre un bouc. De petits ânes, mais aussi les têtes ou les dos, acheminent ballots, fagots, bidons, tout ce que réclame la ville chaque jour. Trois moutons à queue grasse manquent d'être écrasés par un taxi, une de ces vieilles 404 peintes en bleu qui allaient se faire laver. Mais les laveurs sont partis se shampouiner eux-mêmes. Les clochards recherchent un peu d'ombre. Midi approche, le serveur aussi. Vous commandez un munchet, cette sorte de bolognaise servie sur de l'injera, la galette nationale. D'un côté de la place, les marchandes de bananes et de cacahuètes. De l'autre, les reines, celles qui vendent le cat, qu'on appelle ici chat. Une rumeur monte. Des hommes se rassemblent. India est arrivée. Elle est en retard. Fébrile, ils se bousculent, ils s'engueulent. On les entend d'ici. Mais avec elle, ils roucoulent, car elle est la seule à vendre l'humar coulé, une variété saisonnière particulièrement bonne. India est heureusement assez grosse pour les tenir en respect. Comme les autres vendeuses repoussent les chèvres hardies qui cherchent à brouter à même leur sac. Hommes et bêtes, tous drogués. Vous ne vous pressez pas. Aujourd'hui, pas question d'acheter de l'humar coulé. Vous devez privilégier la quantité à la qualité, car vous allez voir beaucoup de monde et votre zaria sera jaugée. Vous vous levez et achetez une douzaine de bottes de diverses variétés, de préférence à tiges rouges, en vérifiant bien la qualité, la fraîcheur des feuilles, leur douceur et votre appétence. Les uns après les autres, les hommes quittent la place, chat sous le bras et sourire aux lèvres. Ils s'attardent sereinement, sûrs maintenant de passer une délicieuse et interminable bircha. Vous remontez l'avenue, sortez de la vieille ville par la monumentale porte du Shoah. Peu après, vous passez devant l'église octogonale qui beugle ses prêches. Des chrétiens en blanc repartent. La messe touche à sa fin. D'autres, les pénitents, restent devant les grilles, ne s'estimant pas dignes d'approcher aujourd'hui. Le pays est réputé chrétien, mais cette ville-ci est essentiellement musulmane, au point de prétendre au statut de quatrième ville sainte de l'islam. On dit qu'elle compte 110 mosquées et tombeaux de saints. On dit même que le prophète aurait fait la sieste un jour sous un kata edulis, l'arbre à kat. Ici, c'est certes le pays du kat ou chat, mais c'est aussi celui du café. Vous achetez un journal en anglais, 4 paquets de cigarettes pour ce soir, et vous vous installez dans une pâtisserie qui passe les derniers tubes locaux. Coup sur coup, vous buvez 2 macchiato, puis un mélange de thé et de café bien sucré. Les nouvelles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont surtout loin, abstraites. Hors des murs de la ville, rien ne vous semble réel. Vous êtes là depuis trop longtemps. Pour rentrer chez vous et vous préparer, vous longez la muraille par le sud-ouest. La ville est si fière de cet écrin qu'elle l'a choisi comme surnom, Jogol, l'enceinte. C'est une marque de distinction. Ses habitants peuvent citer leurs ancêtres sur au moins 10 générations. Et ils se nomment eux-mêmes Usugei, les gens de la ville. Passer par l'extérieur, c'est aussi jeter un œil sur les hauts plateaux environnants, que vous avez tendance à oublier. Vous passez chez vous, posez votre cargaison de tchat et vous brossez les dents. La vieille Momo fait une pause à l'ombre, en chantant d'une voix touchante et horripilante les complaintes de ses joies passées. Vous repartez avec 2 bottes de tchat, les plus belles du lot, et une bouteille d'eau. Vous allez chez votre ami Dawit, qui tient salon tous les après-midi, entouré d'un ramassis d'intellectuels toxicomanes de la meilleure mouture. Ce jour-là, vous retrouvez Abo Idriss, le professeur de droit. Ahmed, qui a détourné 2 fois des avions pour aller à la Mecque, et qui s'en est très bien sorti car son père est un cheikh important dans l'ouest du pays. Un type du Somaliland aussi, dont vous avez oublié le nom, mais qui vous raconte ses rêves dans les moindres détails et avec beaucoup d'humour. Et surtout, Moulu Geita, dont le nom signifie « le plein d'absolu », ce qui tombe plutôt bien, puisqu'il est poète et ancien vagabond. Barbu, bedonnant, méditatif, il affirme que l'air de la ville est trop dense, qu'il faut l'alléger par le tchat. Lui choisit de le piler pour en avaler de grandes quantités d'un coup. Tous les autres le broutent et vous faites de même, à ceci près que vous n'avalez pas au fur et à mesure. Vous gardez une boule dans votre joue, pour laquelle les autres, gentiment moqueurs, vous nomment Al-Yémeni. À demi couché, vous piochez une branche. Vous choisissez les feuilles les plus fraîches. Vous les détachez de la tige d'une pincée entre le pouce et l'index, qui se teintent progressivement de vert. Vous les lissez, moins pour l'hygiène que pour la sensualité. Puis vous les glissez dans votre bouche. Entre vous et le végétal, la tendresse est réciproque. Vous ne sentez pas monter l'effet du tchat. Vous ne le sentez pas agir, envahir. Mais à un moment anodin et sacré, au bien-être en vous et dans le monde, vous comprenez qu'il est entré. Douceur de l'éveil. Tout est ouvert, vous le premier. Tout peut venir, rien ne s'impose, rien ne menace. Pas de manque, pas d'attente, comblé. Si, tout de même, une gorgée d'eau contre l'amertume. Étranger ayant domestiqué l'étrangeté. Étrangeté séduisant encore et toujours cet étranger. Vous êtes au monde dans la communication immédiate. Vous avez soif d'histoire et de vous y promener, d'y participer. Votre ami Moulou écrit. Il dépose les caractères magiques du syllabergaise sur les rectos d'un cahier d'écolier. Puis d'un coup, il interrompt toutes vos conversations et déclame le poème interminable qu'il travaille depuis plusieurs jours.
ከታመመው ጋር አብረህ የምትታመም ከሆነ ከሚያለቅሰው ጋር አብረህ የምታረግድ ከሆነ ከሚደሰተው ጋር አብረህ የምትደሰት ከሆነ ህብረተሰቡን ህዝቡን በትክክል
Vous n'y comprenez rien, mais il vous remue. En lui vivent les mots. Ils composent la musique, ils choisissent leur langue, ils guident la dérive, la leur, la sienne, la vôtre. Mais c'est vendredi soir, et vous êtes invité ailleurs. Il est temps de partir. Vous vous arrachez avec peine à l'intimité du cénacle, et une fois en route, le tchat vous porte. Après être repassé chez vous, vous rejoignez une confrérie soufie de votre quartier. Vous entrez dans un moment de silence, et ils ne manifestent pas leur impatience. Ils attendent de voir la zaria. Vous sortez une dizaine de bottes de tchat, des paquets de cigarettes et des bouteilles d'eau, et leur visage s'éclaire. Cheikh Alif vous donne sa bénédiction, reprise en cœur par tous les autres. On vous fait asseoir à sa droite, devant la tapisserie verte aux versets calligraphiés. On distribue le tchat. Un enfant rêve dans un coin. Un néon clignote. Tout le monde broute, fume, boit de l'eau. Quelques discussions sereines. Un vieux pète. On vous sert une tasse d'infusion de cosse de café avec des nappes de beurre rance et salé à la surface. Vous ne parlez pas la dari, mais vous pouvez comprendre le rythme. Une voix s'élève, verticale, et tout le monde se met sur ses pieds. Les plaquettes de bois claquent, vos mains les suivent. Vous êtes happé, vous entrez en résonance. L'un des hommes danse d'avant en arrière en se matraquant la poitrine. La porte est ouverte sur la nuit noire. Votre chant court sur les sommeils de la ville. Puis ça s'arrête. Chacun se rassoit, se retrouve face à soi, dans le silence intense, en contrepoint, en contrepoids. Quelques discussions à mi-voix, d'un paquet de coussins à l'autre. Ça broute, beaucoup, ça boit une gorgée d'eau à la calebasse, ça fume. Le cheikh jette sur les braises une poignée d'encens, puis lance un profond soupir de contentement. Derrière lui sont des livres. Le jour, c'est une salle de classe. Il tend un cornet de sucre à un vieillard assis près de lui. Le vieux, qui a depuis longtemps cessé de compter ses dents, met le sucre et commence à piler, avec le bout de sa canne. Sa peau est couleur du mortier, son costume couleur du pilon, son esprit couleur du tchat. Sur ce rythme, un vers s'élance à l'adresse du prophète. Tous y répondent. L'un va au tambour calé dans deux pneus à l'entrée. Le chant repart, la nuit entière y passe. Vous prenez congé un peu avant l'aube. Seul dans l'obscurité totale des ruelles, vos pieds vous guident, mais votre esprit se perd. Cette ville est une tanière de fantômes, tapis dans les coins sombres de la mémoire. Brigands, déserteurs, hyènes, lépreux, pierres traîtresses, hyènes, couteaux, racines, eaux sales et trous au sol, hyènes, esprits facétieux, hyènes, oui, surtout les hyènes. Nourries à la pleine lune, elles viennent chaque nuit nettoyer les ordures. Elles passent, sans même les renifler, devant tous les corps dormant à la belle étoile. La ville nocturne est la leur, mais elles connaissent les usages. La plupart relèvent à peine votre présence. Vous êtes de passage et trop vivant pour elles. Mais ce matin, une tête se tourne vers vous. Ses oreilles de chauve-souris dressées, elle s'arrête, pataude comme un ours. À quelques mètres, son visage s'est animé, un peu désemparé. De ses yeux de chien battu, elle vous interroge. « Toi qui voyages, dis-moi, peut-il vraiment y avoir des villes comparables à celle-ci ? » Vous êtes dans le grand monde, pour vous y perdre, pour vous y trouver. Vous êtes à 9 degrés 19 minutes de latitude nord et à 42 degrés de longitude est. Vous êtes en Éthiopie, vous êtes ailleurs, vous êtes à Harar.